Vous écoutez
RMC.
Il est 7h tout pile. Excellent réveil à tous.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet, bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Lendemain de défaite pour Paris, battu 1-0 hier soir à Dortmund en demi-finale de Ligue des Champions. C'était le match aller, match retour la semaine prochaine, mardi à Paris. Les supporters parisiens que vous allez entendre sont plutôt confiants.
Jean-Louis Tour et Éric Dimeco seront dans ce studio à 7h40, ne manquez pas ce rendez-vous.
Le bilan des orages ce matin, plus aucun département en alerte. Mais des dégâts dans le vignoble en Bourgogne et une trentaine de vols déroutés des aéroports parisiens hier soir. Et puis cette information RMC ce matin, nouvel appel à la grève à la SNCF le 21 mai en Ile-de-France pour de meilleures primes JO.
La douche froide hier soir pour les supporters du Paris Saint-Germain.
Alors rien à voir avec les orages, c'est que les Parisiens ont perdu la première manche de leur demi-finale de Ligue des Champions 1-0 hier soir à Dortmund en attendant la deuxième manche, donc mardi prochain à Paris. Jean Rességuier, vous étiez aux commentaires hier soir sur RMC en direct ce matin. Il y a de quoi être déçu ce matin chez les joueurs parisiens.
Oui, comme l'impression d'être passé à côté de son sujet. Paris a manqué de maîtrise, d'ambition, de réalisme. Une grosse déception car le PSG a été trop timide en première période. Seulement 3 frappes au but de Kobel, aucune cadrée. Si les joueurs de Dortmund ont montré que tactiquement, ils n'étaient pas là par hasard. Et au-delà du but inscrit qui les met en ballotage favorable, Paris a surtout fait preuve de malchance avec notamment ses 2 tirs consécutifs sur les poteaux à la 52e minute de Mbappé et d'Hakimi. Plus des situations mal négociées par Fabian Ruiz, Dembélé ou encore Vitinha. Si le PSG a déçu hier, les Parisiens ont encore tous les ingrédients pour renverser cette courte défaite. L'espoir est bien présent et Luis Enrique s'est empressé de le rappeler et d'insister sur le scénario qui sera différent pour aller chercher mardi au Parc cette finale souhaitée par tous les fans du Paris Saint-Germain.
Oui, et ça, les supporters parisiens le savent bien. Les plus optimistes se souviennent qu'en quart de finale, Paris avait perdu le match aller avant de renverser Barcelone au retour. Ils espèrent le même scénario donc mardi prochain contre Dortmund.
Avec quelques ajustements au match retour au Parc, il y a la place, on peut aller chercher la finale. On a les cartes en main, quoi.
Mais franchement, j'ai confiance. Je sais qu'ils vont tout donner. Je sais que Kiki veut nous la ramener, cette coupe, aux grandes oreilles avant de partir.
1-0, c'est rien. Et je pense que le match retour, j'espère qu'on va les boire, mais je suis très confiant.
Le manque de réalisme et la fébrilité sur les côtés en défense. Au retour, on a corrigé ça. Moi, j'y croyais après l'aller, après le Barça. Et là, j'y crois pareil. Même sentiment de domination, donc voilà. Je pense qu'on est la meilleure équipe.
Cette équipe, elle a déjà prouvé qu'elle avait du caractère. On en attend plus au match retour et on y croit toujours.
Bien sûr, c'est chez nous. Ça passe. Ça passe. Facile.
Ils n'ont mis qu'un but. Hein.
Facile.
Ils n'ont pas mis 3.
Facile.
Voilà donc pour Paris qui a perdu hier soir et ce soir c'est Marseille qui jouera à 21h Marseille contre l'Atalanta Bergame en demi-finale de Ligue Europa, l'autre compétition européenne. Match aller au stade Vélodrome, le président de l'OM s'attend à une ferveur exceptionnelle, il le dit, il promet l'enfer aux Italiens qui ont éliminé Liverpool en quart de finale. 7h03 sur RMC, ça vous a peut-être réveillé cette nuit. Elle a été, comme prévu, très orageuse. Ça a tonné, 22 000 éclairs recensés, surtout en Bourgogne, dans le Grand Est, en Normandie, en Picardie et donc aussi en Ile-de-France où une trentaine de vols ont été déroutés des aéroports d'Orly et de Roissy. La faute à la grêle, Romain Hougue.
Le bruit que font les grêlons en s'abattant sur la carlingue de l'avion de Benjamin suffisent à saisir l'intensité des orages qui ont frappé l'Île-de-France et les aéroports parisiens hier soir. Lui devait partir à Milan depuis Roissy au nord de la capitale, mais son avion est resté cloué au sol de longues minutes avant d'être finalement autorisé à décoller une fois le déluge passé. Comme lui, de nombreux passagers ont vu leur vol retardé. Pagaille également dans les airs, à bord des avions à destination de Paris. Une trentaine de vols vers Orly ou Roissy ont dû être déroutés vers les aéroports de Nantes, Bruxelles, Lyon ou encore Lille. Ce voyageur devait partir à Dublin. Hier soir, son vol a carrément été annulé et reprogrammé pour ce matin.
On devait décoller à 22h et donc on a attendu 22h, 23h, minuit. Et là, on nous dit que le vol est annulé, donc voilà. Non, mais il y avait vraiment de l'orage. L'avion ne pouvait pas décoller, c'est sûr. Hein.
Dans les terminaux, quelques inondations sont à signaler, mais rien de grave, nous dit la communication d'Aéroports de Paris. Tout sera remis en ordre dans la journée.
Les semaines se suivent et se ressemblent. C'est une information RMC ce matin. Il y a ce nouvel appel à la grève à la SNCF, cette fois le mardi 21 mai, uniquement en Ile-de-France, où les syndicats demandent de meilleures primes pour travailler pendant les Jeux Olympiques. Vous nous expliquez ce matin, Victor Joannin.
Les discussions avec la direction de la SNCF durent depuis plusieurs mois, mais elles n'avancent pas assez vite, estime Fabien Villedieu, secrétaire fédéral Sudrail.
Mieux vaut qu'on négocie au mois de mai qu'au mois de juillet. Voilà. Donc il y a la volonté d'avancer, mais pour l'instant, il faut que tout le monde s'y retrouve. Et aujourd'hui, les cheminotes et les cheminots ne s'y retrouvent pas en termes de compensation, et notamment les compensations financières.
La direction a notamment proposé aux cheminots une prime de 50 euros brut par jour travaillé pendant les JO, mais les syndicats souhaitent obtenir en plus une prime fixe de plus de 1000 euros. Comme à la RATP, explique Axel Personne, responsable CGT.
C'est sûr que nous, on va l'utiliser comme base minimale. En tout cas, c'est comme ça que les collègues en discutent. Ils disent, bah oui, il faut à minima la même chose que ce que nos camarades de la RATP ont obtenu. Et ça fonctionne comme ça, en fait, dans le mouvement ouvrier. On essaie de s'inspirer de ce qu'il y a de meilleur chez l'un pour l'obtenir chez nous. Et ça, j'y ai ou pas, ça, c'est une démarche et une boussole qui reste toujours fixée sur le même cap.
La direction de la SNCF affirme que le calendrier des négociations avance comme prévu.
La crise agricole, de retour à l'agenda d'Emmanuel Macron, le rendez-vous qui avait été promis au Salon de l'Agriculture, repoussé, eh bien c'est ce matin à 10h que le président recevra les représentants du monde agricole pour tenter de mettre un point final à la crise de cet hiver. Tout le monde sur le terrain, hier, dans la bataille des élections européennes du mois de juin, Jordan Bardella à Perpignan, comme prévu, pour appeler au vote utile en faveur du RN, lui qui est largement donné en tête des sondages avec le double du score du camp macroniste, prié d'accélérer sa campagne, c'est ce qu'a fait Gabriel Attal, qui s'est rendu hier dans une foire du Loiret en tant que Premier ministre et en non en tant que candidat, Sébastien Krebs.
Bonjour Monsieur Attal. Bonjour.
Entre les manèges et les stands de churros,
ça va, ça se passe bien là.
Le Premier ministre enchaîne les selfies sous les parapluies.
Hey. J'avoue que la météo n'est pas.
Oui, mais foire pluvieuse, foire heureuse.
Et pour les militants locaux qui tractent justement dans les allées, ce renfort est plutôt bienvenu.
Il va sauver la campagne. Il va sauver la campagne. J'ai vu l'attroupement qui est autour de lui, donc qui fasse, disons, inverser à la vapeur.
C'est très compliqué, mais on compte sur lui.
Gabriel Attal interpellé de toutes parts sur les retraites, sur les salaires des grands patrons et très vite sur la tentation du vote RN, ici par un macroniste déçu.
J'ai plein de copains qui vont voter pour Bardella. D'accord. Aujourd'hui, l'Europe, qu'est-ce que c'est pour les gens? On nous interdit ici, on nous interdit ça.
Ce qui est certain, c'est que les Français ne vivront pas mieux en dehors de l'Europe. Moi, je considère, avec Valérie Ayé, qu'il faut rester dans l'Union européenne.
Des échanges qui alimentent déjà les accusations du RN. Le Premier ministre profite de son statut, dénonce le député voisin Thomas Ménager.
Ce qui est problématique, c'est qu'il utilise les moyens de Matignon. Juste une déambulation, on serre des mains, on fait des photos. C'est une opération de campagne.
Le RN qui pourrait déposer un recours, pour autant Matignon assume, c'est un déplacement comme tant d'autres, pas une opération de tractage. Il ne sera donc pas déclaré dans les comptes de campagne de Valérie Ayé.
Valérie Ayé qui sera face à Jordan Bardella ce soir dans le débat des européennes à un mois et demi des élections sur BFM TV. Meeting à Villeurbanne hier soir pour Raphaël Glucksmann, tête de liste socialiste, empêché de manifester hier matin à Saint-Étienne, accusant les insoumis encore hier soir, ce que dément le camp de Jean-Luc Mélenchon. Première nuit sous couvre-feu à Nice, la cinquième ville de France qui est interdite depuis hier soir aux mineurs de moins de 13 ans d'être dans la rue entre 23h et 6h du matin dans plusieurs quartiers, notamment le centre-ville. Et puis la traque continue ce matin dans les Antilles à Saint-Martin, à la recherche de l'équipage du bateau dans lequel quasiment 2 tonnes, 1,8 tonnes de cocaïne ont été retrouvées. C'était mardi. Saisie record sur cette île des Antilles. Les trafiquants ont préféré certainement prendre la fuite et laisser sur place leur cargaison.
Et puis à 7h08, on vous signale un nouveau rendez-vous. Lundi prochain, nous lançons le face-à-face et vous sur RMC et BFM TV. De 8h10 à 9h, des personnalités politiques de premier plan viendront répondre aux questions d'Apolline, évidemment, mais aussi à vos questions, vous, auditeurs d'RMC, premier invité de ce nouveau rendez-vous. Ce sera lundi prochain, notez bien que Marine Le Pen sera la première invitée du face-à-face et vous. Vous pouvez déjà vous inscrire pour poser vos questions à la présidente du groupe RN à l'Assemblée. Il suffit de vous inscrire en écrivant un mail à l'adresse vosquestions@rmc.fr. Vous pouvez aussi appeler tout de suite le 3216. Il y a même un QR code à flasher si vous nous regardez en direct sur RMC Story. Notez bien le rendez-vous. Ce sera lundi prochain. De 8h10 à 9h, le face-à-face et vous.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Et dans un instant, des enfants débarqués par la police aux frontières en plein voyage alors qu'ils avaient leur billet de train valide. Le témoignage d'un papa très en colère contre la SNCF dans un instant.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h10 et vous êtes bien sur RMC.
Le témoin RMC.
Et on est en direct ce matin avec un papa en colère contre la SNCF. Bonjour, Aymeric Lavanchy.
Bonjour.
Vous êtes le papa de Jeanne qui a 11 ans et de Louis qui a 13 ans et vos enfants devaient faire un trajet Lille-Rennes en train samedi dernier pour rejoindre, je crois, votre ex-compagne, leur mère. Ils voyageaient avec le service Junior et compagnie qui est un service d'accompagnement des enfants qui sont sans adultes dans le train. Donc normalement, il y a des agents de la SNCF qui les accompagnent. Mais vous êtes arrivé en retard. Et, d'abord, racontez-nous ce qui s'est passé.
En deux mots, hein, donc mes enfants devaient, comme vous l'avez bien dit, rejoindre leur mère. Ils devaient prendre le train à 17h39 à la gare de Lille Europe pour direction Rennes. On sait très bien, quand on voyage avec Junior et compagnie, qu'on doit s'enregistrer une heure avant. L'enregistrement prend 3 minutes. C'est vraiment le temps de vérifier ma carte d'identité et de leur donner une casquette et de mettre leur nom. Malheureusement, il y a eu un accident sur l'autoroute et qui a fait que j'ai pas pu arriver à l'heure. Donc je suis arrivé à 17h25 à la gare et coup de chance a posteriori non mais coup de chance, le train était en retard. Donc du coup, avec mes enfants, comme on a eu information que le train était en retard, on a couru sur la voie et on s'est même permis de ralentir à la fin parce qu'on a vu que l'embarquement n'avait pas commencé. Et donc on s'est présenté à la voiture où l'embarquement de Junior et compagnie devait être fait. Et là, on est tombé sur quelqu'un de plutôt énervé qui nous a dit que non, c'était trop tard, etc., etc. Bon. Ok, j'ai pas
donc insisté. Normalement à ce moment-là, vous êtes le papa des enfants. D'ailleurs, je précise qu'il y avait Louis, votre fils de 13 ans, Jeanne, votre fille de 11 ans, et un enfant d'amis qui lui avait 8 ans. Hein, c'est bien ça.
Oui, voilà. Alors que pas d'amis, je connais pas. En fait, j'ai rencontré cette jeune fille de 8 ans au commissariat plus tard, mais je connaissais pas. Hein, moi, je m'occupe de mes deux enfants et j'amenais mes deux enfants à la gare. Après, encore une fois,
pourquoi ils sont avec ce troisième enfant?
Parce qu'en fait, il y a eu des problèmes d'enregistrement. En fait, encore une fois, il y avait un gros accident.
Ah d'accord. Donc c'est une autre famille. Attendez, là, je voudrais essayer de comprendre. Parce qu'ils sont trois enfants à avoir été débarqués. Parce qu'en fait, l'histoire est folle. Vos enfants, je vais résumer un peu parce que sinon on va se perdre sur les quais de la gare. Mais en gros, face à un contrôleur qui vous dit bah non, en fait, il est trop tard. Vous deviez faire l'enregistrement une heure à l'avance pour vos enfants. Vous avez quand même les billets, vous avez payé ce service Junior et compagnie, parce que c'est pas du tout un service gratuit. Vous prenez la décision de les mettre malgré tout dans le train.
C'est un peu plus compliqué que ça. Globalement, effectivement, Junior et compagnie m'a prévenu, donc il y a une personne sur le quai, me dit que, m'invective un peu méchamment, en me disant que non, il a pas le temps, etc., il peut pas enregistrer les enfants. Voyant, moi, que le train est pas prêt de partir, je prends la décision de faire monter quand même mes enfants, vu qu'ils ont un billet. Donc je fais monter mes enfants dans la voiture dédiée, Junior et compagnie, et je redescends sur le quai. Sur le quai, il y avait de la tension, parce que beaucoup d'enfants ne pouvaient pas être enregistrés, les parents comprenaient pas, parce qu'il y avait largement le temps de le faire. On est tous conscients qu'il faut respecter les horaires, mais le train est en retard, il y a le temps d'enregistrer, donc les parents commençaient à s'énerver. Voyant que ça dégénère, je me dis, je suis remonté moi-même dans la voiture où mes enfants étaient assis pour signaler à l'équipe embarquée que mes enfants étaient là et savoir si ça posait problème. Là-dessus, l'équipe Junior et compagnie embarquée me dit, écoutez, on a la consigne de ne plus enregistrer les enfants. Ok, donc là, je dis, bon, ok, comment je peux faire pour les faire voyager? Et il se trouve que mon fils, qui a 13 ans, a le droit de voyager seul. C'est 12 ans, là, pour voyager seul dans un train. Donc je demande, est-ce que mon fils, du coup, avec son billet, peut voyager seul? On me dit oui. Donc je me dis, bon, c'est réglé pour mon fils, se pose le problème de ma fille, qui a 11 ans et demi. Et là, les gens de Junior et compagnie me disent, bah écoutez, votre fils peut accompagner votre fille. Affaire classée. Je me dis, bon, ok, donc Junior et compagnie me précise, on n'encadre pas vos enfants, on ne s'en occupe pas. Par contre, ok, ils voyagent seuls. Très bien. Je descends de la voiture. Au moment où je descends de la voiture, chose importante, les gens d'Union et compagnie me préviennent. Attention, par contre, il faudra que vos enfants fassent valider leur billet auprès du contrôleur.
Okay.
Donc je descends, le train part. J'appelle mon fils qui est dans la rame en lui disant, va avec ta sœur voir le contrôleur, faire valider ton billet et tu me préviens quand c'est fait. Et il m'envoie un message
sur WhatsApp. Oui, parce qu'en plus, il a le téléphone, il peut vous appeler. Ben,
Il m'envoie un message sur WhatsApp 3 minutes après, le contrôleur a validé le billet, tout se passe bien.
Sauf que,
une heure après, mon ex-femme m'appelle en me disant que les enfants viennent de l'appeler paniqués parce qu'ils vont être débarqués sur le quai à Roissy. Donc là, je rappelle mes enfants pour savoir exactement ce qui se passe. Je tombe sur quelqu'un de Junior et compagnie qui avait le téléphone de ma fille en main. Chose que je me demande bien pourquoi d'ailleurs, vu qu'il était plus supposé s'en occuper. Et cette dame-là me dit, écoutez, on comprend pas, on nous demande de débarquer les enfants. Bon, elle était plutôt paniquée, donc bon, j'ai pas trop discuté avec elle. J'ai demandé à parler au contrôleur, donc j'ai entendu une voix derrière dans le train dire, non, moi je ne parle pas aux parents.
Attendez, c'est le contrôleur qui a pris la décision donc de débarquer les enfants, ce troisième enfant qui avait donc 8 ans, qui lui non plus visiblement n'était pas enregistré.
Alors moi je n'en ai aucune idée, parce que pour être honnête, je n'ai aucun contact avec SNCF ou avec le service Junior et N.
Alors ils ont répondu, il faut quand même aussi donner leur version. Voilà. La SNCF réfute toute remise en cause de la part des parents de ces enfants, assure avoir parfaitement rempli ses devoirs pour protéger les enfants. En réalité, eux estiment que vos enfants n'ayant pas l'âge, en l'occurrence votre fille n'ayant pas l'âge officiel pour pouvoir voyager seul, ils n'étaient pas en mesure d'assurer sa sécurité, et donc ils ont pris la décision de les faire descendre, alors pas descendre seul, hein, descendre accompagné donc des agents de la douane en l'occurrence, hein, qui donc ces policiers qui se sont occupés des enfants, qui ont pris en charge les enfants à partir de la gare de Roissy.
Et qui s'en sont très bien occupés, je tiens à le signaler. Ça, c'est donc mes enfants n'ont jamais été mis en danger.
Ils vont comment vos enfants ? Ils vont comment vos enfants ?
Alors c'est quand même l'essentiel. Eux vont très bien. Ils sont en vacances chez leur mère. Ça se passe très bien. Ils ont pas du tout été. Ils ont été choqués sur le moment, plus par le fait de voir 8 agents de police rentrer dans une voiture d'enfants pour venir prendre eux, alors que eux voyageaient a priori en règle. C'est ça qui les a un peu choqués. Après, encore une fois que la police de Roissy, donc a priori la douane, mais je ne sais pas, les a récupérés, ça s'est très bien passé. Ils ont été pris en charge jusqu'à temps que j'arrive pour venir les chercher. Ils ont été mis, ils n'ont pas été mis dans une pièce à part. Ils étaient vraiment au milieu du commissariat. D'ailleurs, l'image était assez.
Ils ont fait un stage, quoi. Un stage d'observation.
C'est ça. Je pense que ça leur a peut-être donné une vocation. Mais en tout cas, enfin, je tiens à le dire parce que c'est ce qui a permis de faire que mes enfants et la petite fille également, je pense, n'ont pas été choqués.
Non, en fait, ce que vous demandez aujourd'hui, Aymeric, c'est à ce que les choses soient beaucoup plus claires. C'est-à-dire que vous, il y a eu quand même ce flottement. Bon, on va quand même le dire. Si vous n'étiez pas arrivé en retard, tout ça ne serait pas arrivé. Hein, quand même, à un moment, c'est vrai que voilà. Et vous avez pris la décision de les faire voyager malgré tout. Vous saviez que c'était border.
Non, très honnêtement, moi, il y a deux points où je suis pas d'accord. Déjà, moi, j'ai un problème de communication avec la SNCF, parce que moi, la SNCF ne communique pas, et c'est vos collègues journalistes qui me donnent leur version. Déjà, dans leur communiqué, leur réponse, je suis pas d'accord sur le fait que je suis pas arrivé 3 minutes avant le départ du train. Mes enfants étaient assis dans le train 20 minutes avant le départ.
Non, avant le départ, mais vous êtes arrivé 3 minutes avant l'heure du départ.
Ben oui, mais après, encore une fois, le train est en retard pour une fois que c'est utile.
Bien sûr.
Encore une fois, mes enfants étaient assis dans le train 20 minutes avant leur départ, donc auraient largement eu le temps d'être enregistrés. C'est le premier point. Deuxième point, je n'ai pas laissé mes enfants dans le train de façon illicite, vu que j'ai posé la question si c'était possible de voyager seul. On m'a répondu que oui, et on m'a bien précisé. Par contre, du coup, ils voyagent hors cadre Junior & Co. Et donc, on m'a demandé de faire valider le billet par le contrôleur, que j'ai pas fait moi-même personnellement, parce que je comptais pas spécialement aller à Rennes, donc je suis pas resté dans la rame, je suis descendu, mais que mes enfants ont validé, et ils étaient
en règle de ce point de vue-là, c'est très clair. Aymeric Lavanchy, on va s'arrêter là, mais je trouve en tout cas votre récit très instructif pour tous les parents. Ils y regarderont à deux fois et on fera bien attention. Instructif aussi parce que vous donnez une version qui est quand même légèrement différente de celle de la SNCF, et c'était important de vous entendre aussi. Vous, on a compris donc que la règle c'est la règle, qu'on ça rigole pas la SNCF, et voilà, qu'il n'y a pas eu cette espèce de voilà de d'élan ou de spontanéité avec laquelle vos enfants, si je comprends bien, qui étaient quand même plutôt responsables, aurait pu être traité. Merci en tout cas, Aymeric, d'être passé par le 32-16 pour témoigner de votre histoire. On est content quand même qu'ils aillent bien. 7h19.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Dans 20 minutes, double dose de foot avec la courte défaite du PSG hier soir à Dortmund et l'OM qui joue sa demi-finale de Ligue Europa ce soir face à Bergame. On sera en direct avec Jean-Louis Tour et Eric Dimeco. Avant cela, le 7h20 d'Apolline Matin. À tout de suite sur RMC avec Amélie Rosic, Arnaud Demanche et Manu Le Chip.
Apolline Matin. Les indiscrets RMC.
Et on fait une parenthèse pour aller dans les coulisses de l'actu. S'y glisser avec Mao Becker-Granier. Bonjour Mao.
Bonjour Apolline.
Mao, Bruno Le Maire est mon invité tout à l'heure à 8h30. Le ministre de l'économie doit faire 10 milliards d'euros d'économies. Ça veut dire des coupes dans les budgets. Près de 700 millions par exemple à l'éducation nationale. Mais finalement, le ministère fait marche arrière en catastrophe sur les heures supplémentaires. Tout s'est joué dans la journée d'hier. Les syndicats de directeurs et d'enseignants sont montés au créneau pour dénoncer cette mesure prévue par l'Éducation nationale. Concrètement, le ministère voulait supprimer les heures dédiées, par exemple, aux sorties scolaires, aux révisions des examens ou encore à des projets pédagogiques. Des messages sur Pronote avaient déjà été envoyés pour avertir de la fin de certaines activités. Une manière de faire près de 100 millions d'euros d'économie. Mais les syndicats ont dénoncé une mesure inacceptable sur le fond comme sur la forme. Un mépris pour le travail fait dans les établissements et une décision prise sans aucune concertation. Dans l'après-midi donc, le ministère a finalement communiqué. Toutes les académies auront bien les moyens nécessaires pour mener leur mission jusqu'à la fin de l'année scolaire.
Les aides ont été réduites et t'as quand même des...
Et le ministère de l'Éducation, il donne quoi comme explication ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis plusieurs semaines, le ministère de l'Éducation nationale travaille d'arrache-pied pour trouver un moyen de faire des économies sous la pression de Bercy, mais sans dialoguer suffisamment avec Matignon. Un cadre de la majorité explique qu'il n'y a aucune coordination entre le ministère de l'Éducation et le Premier ministre, preuve supplémentaire du dialogue compliqué entre Nicole Belloubet et Gabriel Attal, ce qui explique ce rétropédalage et ses failles dans la communication. La consigne a bien été donnée au recteur de suspendre les heures supplémentaires. Mais derrière, en coulisses, le ministère tentait toujours de trouver des solutions pour éviter qu'on en arrive là. Trop tard, les syndicats, tout comme les parents d'élèves, dénoncent donc un couac. On n'en peut plus de ces allers-retours et de ce manque de concertation, me dit le président de la FCPE, la Fédération des parents d'élèves.
Et du coup, Mao, vous nous dites ce matin que cette affaire, elle crispe les profs encore un peu plus, hein ?
Oui, pour les principaux responsables syndicaux, le ministère a compris que cette mesure pouvait, je cite, « mettre le feu sur cette fin d'année ». Et dans un contexte électoral, l'un des responsables de la campagne Renaissance confirme « il a fallu vite éteindre l'incendie », ce qui n'empêche pas les enseignants d'être inquiets et songeurs. On se demande encore s'il y a un pilote à bord au ministère de l'Éducation nationale, des inquiétudes et encore des doutes. On n'est pas naïf, ce sera pris ailleurs à un autre moment, selon une source syndicale. Et pour l'instant, personne au ministère ne peut expliquer précisément où seront trouvés les 683 millions d'euros d'économies à faire obligatoirement d'ici la fin de l'année.
RMC, Apolline Matin, le 7h20.
Apolline de Malherbe.
C'est l'heure du 7h20 d'Apolline Matin avec Amélie Rosic, Manu Le Chypre, Arnaud de Manche. Amélie, aujourd'hui, vous venez en aide à des touristes qui ont franchement passé les pires vacances de leur vie, on peut le dire. Août 2023, Argelès-sur-Mer, dans les Pyrénées-Orientales.
Absolument, c'est Cécile et Cyril louent un mobilhome dans un camping avec leurs trois enfants. Une semaine après leur arrivée, il fait beau. Ils partent en balade à pied en fin de journée.
On s'est dit juste, on part à la plage vite fait, on prend un bain, on rentre. On avait maillot de bain, tongs, serviette de plage.
Et à leur retour, le camping est en flammes. Ils sont contraints de dormir à la Belle Étoile sur des transats et en maillot de bain. Dans un autre camping qui les accueille, 480 hectares sont partis en fumée cette nuit-là. 3000 personnes évacuées, un pompier blessé.
Ça aurait pu être très grave. Mm-hmm. Les affaires de la famille de Cécile dans tout ça ?
Ah bah, totalement brûlées. Vêtements, ordinateurs, appareils photo, il y en a pour plus de 10 000 euros. Cécile a porté plainte, déclaré les pertes au camping. Et depuis 9 mois, rien. La banque leur a prêté de l'argent pour tout racheter. Il y a tout le matériel, mais il y a aussi les objets irremplaçables, notamment les doudous et les peluches des enfants. Écoutez.
J'ai l'un de mes enfants qui a fait un syndrome post-traumatique suite à ça. Il y avait beaucoup d'objets qui avaient une valeur sentimentale, qui n'avaient pas de prix. Et le fait de clore ce dossier, ça pourrait aussi permettre d'avancer sur le deuil de ce qu'on a perdu sentimentalement parlant, quoi.
Comme Cécile, 180 familles qui logeaient au camping ont été sinistrées.
Et comment ça se passe dans ces cas-là ?
Alors, soit vous avez l'option villégiature dans votre assurance, c'est assez facile à trouver, soit c'est celle du lieu de vacances qui indemnise. Nous avons donc demandé au camping et après des mois de silence, ils ont enfin répondu à Cécile pour lui dire que rien n'est prévu pour les clients dans leur contrat. On a expliqué tout ça à la famille, mauvaise nouvelle, hein, et du coup, ils ont rappelé leur assurance. Dans un premier temps, ils leur avaient expliqué qu'ils n'étaient pas couverts et puis finalement, après un énième coup de fil, on a appris hier soir qu'ils ont la bonne option.
Donc tout est bien qui finit bien ?
Eh bien presque, ils ont transmis tous les documents nécessaires. Un expert doit passer chez eux dans 3 semaines et on espère qu'ils seront très vite remboursés. On va évidemment suivre tout ça de près.
L'écho, Manu, la France reste le pays le plus attractif d'Europe pour les investissements étrangers. Est-ce que ça suffit à dire que ça y est, la France se réindustrialise ?
Alors, c'est vrai que pour la 5e année consécutive, EY dit la France est le pays le plus attractif d'Europe pour les investissements étrangers. Alors c'est vrai, oui, ça se traduit par un début de réindustrialisation, mais qui reste modeste. Les investisseurs étrangers ont créé ou agrandi 530 usines sur tout le territoire en 2023, mais si on fait la différence entre le nombre d'usines qui ouvrent et le nombre d'usines qui ferment, eh bien, le gain n'est plus que de 57 en 2023, nous dit Bercy. 57 à mettre en regard des 260 000 entreprises industrielles du pays.
Ah oui, c'est maigre quand même. Est-ce qu'on peut espérer que cette réindustrialisation, quand même, à un moment, elle prenne vraiment de l'ampleur?
Alors, il y a des signaux encourageants. La simplification, par exemple, ça plaît beaucoup aux investisseurs étrangers. Mais il y a encore beaucoup de freins. Le coût du travail, la complexité du code du travail, le climat social dégradé avec les grèves. Si bien que les usines créées en France sont moins riches en emploi qu'ailleurs. Par exemple, la fiscalité sur les entreprises pose problème, la fragilisation de nos pôles de R&D et puis la concurrence exacerbée, non pas des voisins européens, parce qu'on est meilleurs qu'eux, hein, les Allemands, les Anglais, mais de l'Amérique du Nord ou de l'Asie, et notamment sur un point qui est déterminant pour les industriels, c'est le prix de l'énergie. L'énergie est plus chère en Europe aujourd'hui.
Et justement, les chiffres, l'économie, mon invité ce matin, 8h30, c'est Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, Arnaud.
Oui. Je possède des thunes. Je suis à l'aise financièrement. Je ne me plains pas. Les affaires marchent en ce moment.
C'est vrai que les affaires marchent hein, pour Bruno Le Maire, le ministre de la Moulaga. La croissance française a pris 0,2% alors qu'on attendait une stagnation. Les agences de notation lui ont filé une bonne note. Là, il va débarquer à votre interview en winner. Il va être là, lunettes noires, chemise ouverte, en jetant des billets de banque comme dans les clips de rap.
Madame de Malherbe, vous avez vu comme j'ai redressé les comptes? Avec moi, il y aura de la thune. La Bruno 2027, c'est le SMIC à 5000, les impôts à 5 euros, jacuzzi obligatoire dans tous les apparts et du champagne qui coule au robinet. C'est Léa Salamé qui va être contente.
Alors, lundi, alors qu'il était à l'Assemblée pour un débat sur les finances publiques, Bruno Le Maire a dégainé un classeur de 2500 pages. Alors, les députés se sont crispés. Qu'est-ce que c'est que ce truc? En fait, c'était des lettres adressées par toutes les oppositions qui exigeaient des dépenses publiques avant, en le traitant de radin. Mais au départ, ils ont dû paniquer, les députés, en se disant, merde, ça doit être son nouveau bouquin qui va nous faire.
Et maintenant que j'ai tout déchiré en économie, retour à la littérature. La timide capucine admirait le glaive turgescent du docteur Rodriguez. Beau et conquérant. Viens à moi, baby. Et je te donnerai du plaisir, comme un ministre français en donne parfois à des agences de notation, après avoir bien renfloué les caisses.
Oh c'est, non, ce qu'on pas a, renfloué, non.
C'est ce qu'on appelle un renflouement bien.
Ah, vous, l'avez, vous l'avez senti venir, hein, ça part fort. Rendez-vous pour la suite du roman avec Bruno Le Maire à 8h30. À tout à l'heure.
Et on vous retrouve d'ici là à 8h20. À tout à l'heure, Arnaud.
Bisous.
Bisous. 7h31 sur AMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texa. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Les orages dévastateurs d'hier soir ont fait une victime, une femme de 57 ans décédée dans l'Aisne après une coulée de boue, de violentes précipitations qui ont également frappé l'Île-de-France et la Bourgogne où de nombreux vignobles ont été détruits. Et débat qui s'annonce tendu ce matin à Sciences Po. La direction de l'établissement propose un débat ouvert de 2 heures sur la situation à Gaza une semaine après les blocages. Et puis malgré leur défaite hier soir à Dortmund, 1-0 en demi-finale de Ligue des Champions, le PSG reste en vie et devra s'imposer mardi à Paris pour se hisser en finale.
Une femme décède dans l'Aisne après une coulée de boue.
On vient d'apprendre, c'est la préfecture du département qui nous l'annonce. Une femme de 57 ans morte dans la commune de Courmel. De nombreuses habitations sont sinistrées dans cette commune, conséquence d'orages particulièrement violents qui ont frappé la Picardie, la Bourgogne, mais aussi l'Île-de-France dans la soirée. Plus de 22 000 impacts de foudre ont été enregistrés à l'est de Paris. Il est tombé l'équivalent de 2 semaines de pluie en quelques heures seulement, avec pour conséquence des vols déroutés dans les 2 principaux aéroports de la capitale, Orly et Roissy, où le terminal 2 a été inondé. Un épisode d'une rare violence qui a ravagé de nombreux vignobles également dans le Chablis. Daniel Étienne Defay est viticulteur dans la région. Il constate les dégâts ce matin.
On est très très touché puisque on a eu des grêlons alors qu'il y allait de la balle de ping-pong à la balle de pétanque. Le cœur historique de Chablis est ravagé, les chemins de terre sont engloutis, les goudrons sont soulevés, les vignes, elles sont bien massacrées. On va perdre 50, 60, 70, peut-être 85%, mais on va avoir une perte aussi des bois de taille pour l'année prochaine. Voilà, donc là c'est un vrai massacre et voilà. Un orage de grêle. Il s'abat et il bousille tout. Ravageur, 7-8 minutes.
Un des agriculteurs attendu à l'Élysée ce matin, les principaux syndicats du secteur doivent rencontrer Emmanuel Macron pour une réunion de travail 3 mois après une mobilisation massive des agriculteurs qui ne décolèrent pas et qui attendent toujours des réponses de l'exécutif. Des affrontements la nuit dernière à Los Angeles. Des étudiants pro-palestiniens et pro-israéliens se sont opposés sur le campus de l'université UCLA avant l'intervention de la police. La Maison-Blanche condamne le petit pourcentage d'étudiants qui provoquent le désordre. C'est dans ce contexte en France un débat sera organisé ce matin à 10h par la direction de Sciences Po sur la situation à Gaza. Professeurs, étudiants et syndicats sont conviés pour ce rendez-vous qui peine à faire l'unanimité dans les rangs des étudiants mobilisés depuis plusieurs jours pour la Palestine, Nicolas Repère.
Ni drapeau, ni slogan, ni banderole. C'est à ces conditions que la direction de Sciences Po autorise ce débat. Pendant 2 heures, associations, syndicats, étudiants échangeront avec des enseignants-chercheurs de l'établissement. En quelques minutes, les 500 places disponibles ont été prises d'assaut par des étudiants très demandeurs. Jack, en master à Sciences Po et mobilisé au sein du comité Palestine, assure que cette discussion n'éteindra pas la contestation.
C'est une avancée, pas une victoire encore. Et on verra exactement quelle sera la tenue de ce débat. On verra ce que dira la direction. On verra ce que disent les différentes personnes représentées lors de ce débat. Et ensuite, on jugera entre nous, entre étudiants et étudiantes mobilisés, ce qu'on veut faire, si ça nous satisfait, si ça ne nous satisfait pas.
Le comité Palestine Sciences Po, à l'origine des actions de ces dernières semaines, a bien été invité. L'Union des étudiants juifs de France confirme à RMC qu'elle sera, elle aussi, bien présente, en espérant, nous dit un de ses responsables, que la discussion repose sur des faits et que le débat ne soit pas instrumentalisé.
7h34, vous êtes sur RMC. Un plan de lutte contre la prostitution présenté ce jeudi par le gouvernement. 8 ans après la loi pénalisant les clients, la ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes, Aurore Berger, entend renforcer son application. Cela passe par la protection des mineurs, mais aussi plus de fermeté face aux nouvelles formes de prostitution sur Internet. Pour RMC, Marion Dubreuil, vous avez recueilli le témoignage d'une jeune femme survivante de la prostitution entrée par le biais du numérique.
Alexine, 28 ans, est tombée dans la prostitution quand elle était étudiante pour payer son loyer.
J'avais 19 ans, je me suis tournée vers un site d'annonces et il y avait plein d'annonces de prostitution. Je m'étais dit que c'est juste coucher avec quelqu'un, mais c'est payé pour ça. Mais j'en suis ressortie traumatisée et même la première fois, je suis partie en pleurant.
Ça a duré 2 ans. Une IVG, une maladie sexuellement transmissible et le mouvement MeToo ont agi comme des électrochocs sur la jeune femme.
Quand on se débarrasse de tout ça, on voit à quel point on a été maltraité, exploité. On n'est pas dans un film, ça n'arrive pas à quelqu'un d'autre.
Alexine témoigne pour lever le tabou sur la prostitution et ses conséquences.
Mon sommeil qui a été impacté, la dépression longue durée, se battre contre des infections, des maladies chroniques.
Aujourd'hui, elle espère que le gouvernement va augmenter l'aide financière à la sortie de la prostitution de 343 euros par mois.
Ça ne nous permet pas de s'émanciper et de sortir de la prostitution. C'est un parcours de combattante.
Seules 1200 personnes ont bénéficié l'an dernier d'un parcours de sortie de la prostitution.
Marion Dubreuil pour RMC. Le PSG rate le coche, battu à Dortmund hier soir en demi-finale de Ligue des Champions. Les Parisiens s'inclinent 1-0, mais conservent leur chance de qualification pour la finale. Pour cela, il faudra s'imposer mardi prochain au Parc des Princes. Arthur Perrault, l'espoir est permis.
Oui, dès le coup de sifflet final, Kylian Mbappé apparaît marqué, les mains sur les hanches, le regard dans le vide. L'entraîneur Luis Enrique a le poing serré vers les supporters et se projette déjà sur le match retour.
Je suis sûr que c'est la première fois que le Borussia va jouer le match retour dans cette compétition à l'extérieur. Pour nous, ce sera la première fois. Nous n'avons plus rien à perdre. On va aller chercher ce résultat.
Paris a des raisons d'y croire. En quart de finale, il a déjà rattrapé un but de retard contre Barcelone. Au micro de Canal+, le défenseur Achraf Hakimi sait que le public du Parc des Princes fera la différence.
Je pense qu'on a dominé tout le match. Je pense qu'à la maison, c'est différent. Avec notre supporter, à notre stade, l'ambiance va être différente. C'est sûr. Je suis plein de confiance à cette équipe et les occasions qu'on a trouvées aujourd'hui. Le match de retour, il va rentrer.
Le Paris Saint-Germain est encore en vie et se retrouve à 90 minutes d'atteindre la deuxième finale européenne de son histoire après celle de 2020.
Et place à l'OM ce soir en Ligue Europa opposé à l'Atalanta Bergame. 4e demi-finale pour l'OM dans cette compétition avec un espoir puisque jamais les Marseillais n'ont été éliminés à ce stade de la compétition. OM-Atalanta, c'est soirée spéciale sur RMC ce jeudi en direct du Vélodrome dès 21h suivi de l'after et de la libre antenne jusqu'à 1h.
Et c'est soirée spéciale chez Dexter.
Oh oui, hein, pas beaucoup d'envie.
Les courses à Chantilly.
Rendez-vous à 20h25 sur RMC Découverte. Le 16, Star Rock est le favori de la Dream Team. Son outsider, c'est le 3, Shining Ocean, le 16 et le 3.
C'était le journal du supporter de l'OM, Thibaut Texer. Il est 7h37.
RMC, 6h39.
Apolline Matin.
Et justement, le foot, tout ce jour à la semaine prochaine pour le PSG en Ligue des Champions après sa courte défaite hier soir à Dortmund et là en demi-finale de Ligue des Champions. Tout se joue dès ce soir pour Marseille en Ligue Europa face à l'Atalanta Bergame. Jean-Louis Tour et Eric Dimeco seront en direct dans un instant pour une double dose de foot de bon matin. Vous restez avec nous sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h40 et vous êtes bien sur RMC.
L'invité du jour.
Oui, vous êtes bien sur RMC parce que c'est double dose matinale de foot aujourd'hui avec Jean-Louis Tour. Bonjour Jean-Louis.
Bonjour Apolline.
Avec Eric Dimeco. Bonjour Eric. En direct
bonjour
de Marseille. Le PSG hier soir, Marseille ce soir, la Coupe, la Ligue des Champions, la Coupe d'Europe. Alors on commence par le PSG quand même. Cette défaite 1-0 hier soir à Dortmund. Des regrets ce matin, ils peuvent en avoir, hein, Jean-Louis.
Oui, des regrets parce qu'il y a eu des occasions, c'est vrai, mais aussi une prestation globale du PSG qui est insuffisante pour une demi-finale de Ligue des Champions. Il y a un espèce de retour sur terre pour les Parisiens. Il y a eu une euphorie générale après le match contre Barcelone. Et dans le foot, dans ces cas-là, il y a l'émotion qui emporte tout. Les supporters ont une belle émotion en éliminant un grand d'Europe, un match retourné après une défaite à l'aller. Et dans ces cas-là, bah, on oublie tout. On oublie tout ce qui s'est passé depuis le début de saison. On oublie certains choix de l'entraîneur qui sont compliqués à comprendre. On y croit et on oublie les problèmes qui ont pu être pointés du doigt avant en disant, bah voilà, vous avez eu tort tout ce temps-là. Mais il n'empêche que Luis Enrique fait des choix toujours aussi compliqués à comprendre. Hier, il fait un seul changement dans le match alors que le PSG mené fait pas une grande prestation. C'est Kolo Muani, le joueur qui a peut-être le moins de confiance dans l'effectif depuis le début de saison, le seul à rentrer. Du mal à comprendre ce choix. Et puis il y a une autre réalité.
Même avec le recul, on a toujours pas d'explication.
Hein. Ouais, c'est un peu difficile à expliquer. C'est sûrement les choix de Lucien Riquet. Lui, il a sûrement une explication précise. Il a pas voulu rentrer hier dans les choix individuels. Et puis l'autre truc de la saison du PSG, c'est que Mbappé, c'est pas, même s'il a beaucoup de buts à son actif, hein, c'est la saison où il a le plus marqué, c'est pas le grand Mbappé qu'on a pu connaître.
Non, puis ça a manqué de précision. J'en veux pour preuve un moment. Je propose qu'on écoute de revivre la 51e minute. On est donc en début de deuxième période. Paris est mené 1-0 et ça donne ça.
Mbappé la frappe, oh, le poteau qui sauve comme elle. C'est pas fini. Mbappé encore, la frappe, le ballon, Barcola, la frappe derrière, oh, le poteau, l'autre poteau pour Hakimi. C'est pas fini avec la tête, le centre de la part de Nuno Mendes, la tête plongeante de la part de Mbappé.
Le poteau, l'autre poteau, c'est quand même.
Ouais.
C'est presque un coup du sort, là, quand même.
Qu'est-ce qu'il est fort, Jeannot Séguier, quand même.
Ouais, extraordinaire. J'avoue que je ne pouvais pas résister à ce petit plaisir.
Oui, bah après, c'est aussi la saison du PSG cette année. C'est-à-dire qu'il y a des failles, il y a des limites dans cette équipe. Ce n'est pas la meilleure équipe d'Europe, mais sur les individualités, sur une action, bah, à tout moment, l'équipe peut marquer. C'est ce qui peut donner de l'espoir pour le match retour. Mais quand on voit ces occasions-là, on se dit forcément qu'il y a des regrets, mais quand on voit l'ensemble du match, il y a quand même aussi des limites dans cette équipe.
Avec un match retour, donc, mardi prochain, jouable.
Oui, oui, bien sûr. Il y a qu'un but à remonter maintenant avec la nouvelle formule de la Ligue des Champions, avec le parc qui sera en ébullition. Bien sûr que c'est jouable, oui.
Et justement, Marseille, l'autre espoir de titre européen. Marseille, ce soir, qui reçoit l'Atalanta Bergame pour sa demi-finale de la Ligue Europa au Vélodrome. L'ambiance va être dingue quand même, Eric. Hein.
Oui, c'est récurrent depuis que ce nouveau stade existe. Nouveau stade fabuleux, ambiance fabuleuse. 65 000 spectateurs régulièrement. Au stade Vélodrome et puis une ambiance de folie et puis surtout une bonne ambiance, c'est-à-dire que c'est rarement hostile aux joueurs, donc ça va être important pour eux ce soir et donc ça fait partie des plus de l'OM, un OM aux deux visages, hein, un championnat moyen en Ligue Europa même si il y a des limites dans cette équipe-là, avec une volonté et un Aubameyang qui est en folie depuis le début de la saison, donc on espère ce soir que l'ambiance Aubameyang et peut-être un match un peu plus plein de l'équipe permet
comme s'ils se grandissaient quand ils étaient au niveau européen.
Oui, ben c'est vrai que c'est quand même une atmosphère particulière, hein, les matchs de Coupe d'Europe, donc ce serait pas la première fois en Europe qu'on voit une équipe qui galère en championnat avoir des bonnes performances en Coupe d'Europe, hein. Ça arrive souvent.
Oui, Charles.
Ouais, un mot
ce soir, je précise quand même, Eric, je vous le dis, hein, il a dit aller au l'OM.
Non, mais.
Si, il l'a dit. Il l'a dit.
On serait content pour la CUFA, c'est la France, tout ça. Non, je serais content pour Eric, par exemple. Mais Eric, c'est presque l'inverse, j'ai l'impression, pour l'OM. Le PSG est arrivé plein de confiance hier soir contre Dortmund, peut-être un peu trop. L'OM, il y a un peu moins d'assurance dans le jeu, quoi. On est plus modeste face à Bergame.
Oui, et puis en plus on nous promet une équipe de Bergame qui joue bien au ballon, qui oui. Alors j'ai quand même l'impression qu'on nous les survend un peu, comme on nous avait survendu Benfica et Villarreal. Oui, c'est une très très bonne équipe, c'est pas une grande Europe. Donc l'OM peut-être sur un match avec l'ambiance, avec justement ce Grinta hein, qui fait un petit peu leur force cette année, gommer la petite différence qu'il y a entre les deux équipes. Après, il faudra quand même un petit matelas avant d'aller là-bas, je crois quand même.
Ça veut dire quoi, Eric ? Ça veut dire que vous êtes plutôt plus prudent que positif, hein, qu'optimiste ?
Ah non, mais là, tout le monde est optimiste avec un match de Coupe d'Europe, une demi-finale.
Bien sûr, par principe, mais une fois qu'on a dit ça.
Oui, oui, mais on est tous conscients des limites de l'OM cette année. Même les supporters les plus ultra savent que cette année c'est compliqué, que l'effectif est peu équilibré, que il y a des carences et qu'on doit le parcours, je l'ai dit, beaucoup à Aubameyang et beaucoup à la volonté de cette équipe-là. Oui.
Jean-Louis, quels sont les risques ce soir ?
Bah, les risques, c'est que l'OM tombe contre meilleur que soi. C'est possible. Eric l'a dit aussi. Cette équipe, on l'a dit aussi tout au long de la saison, a certaines limites. Mais comme justement, on a pointé du doigt un effectif qui manquait de qualité, bah, il y a moins d'attentes autour de l'OM. Du coup, on se dit qu'il n'y a que à espérer, que l'Atalanta est sans doute meilleure sur le papier, mais qu'après, avec les leviers comme le public, le vélodrome, une capacité quand même qu'ont les joueurs de l'OM à se dépasser, on l'a vu contre Benfica, l'OM peut renverser des montagnes. Voilà, c'est une question d'attente en fait. Il y a un peu moins d'attente parce qu'on se dit que l'adversaire est meilleur, donc dans ces cas-là, tout peut se passer.
On est d'accord, Eric ?
Un peu comme Dortmund. On est dans la même situation que Dortmund hier soir. Hein.
Alors ça leur a pas.
J'étais sûr qu'il irait.
Forcément, franchement, porter chance.
Pas favori. Un stade qui joue le deuxième homme. Une équipe en face peut-être qui arrive en étant trop sûre d'elle. Voilà, on joue sur tout ça, nous, on est le petit poussé. Hein.
Oui. Quand ça vous arrange, Eric.
On est le petit poussé quand le PSG est grand favori.
Charles, t'as vu cette humilité ou pas
même,
hein. Justement, j'aimerais avoir le
regard objectif d'Eric sur le PSG d'hier soir. Est-ce que justement, c'est cette grinta marseillaise qui a manqué aux Parisiens hier soir ?
Non, mais Jean-Louis a presque tout dit. Sauf que quand il dit. On a perdu la mémoire parce que les performances du PSG cette année ont été souvent. Plus souvent ce qu'on a vu hier soir que le retour du Barça. Il a perdu la mémoire sur les occasions de Dortmund hier soir. Il a perdu la mémoire sur le scénario du match retour au Barça avec une expulsion très rapide qui a facilité le match.
Non, c'est tout ce que je dis justement, Eric. C'est exactement ce que je dis.
Non, tu as perdu la mémoire toi aussi. Oui. Donc, si tu veux, je crois qu'on a survendu la performance au Barça du PSG, je trouve.
C'est exactement ce que j'ai dit.
Et Eric et Jean-Louis, il y a Sébastien qui nous a appelé au 32-16. Je crois qu'il a un message pour vous, Charles. Bonjour Sébastien.
Allez. Bonjour Apolline.
Sébastien qui vous appelle du Rhône. Vous êtes à Loire-sur-Rhône, voilà. C'est ça ? Opérateur c'est ça, laser.
C'est ça, c'est un plaisir de vous avoir. J'ai fini ma nuit et j'ai eu hier matin Charles au téléphone.
Oui, je me souviens.
Hein, on se souvient. Donc bon, qui avait raison, nous ? Je voulais juste te dire, Charles. Et puis bon, je sais pas si Eric m'écoute encore. Eric, merci
pour
le
message.
Je suis là. Merci pour 93. Tu es le meilleur. Et je voulais surtout dire à Charles. Nous, on joue pour le maillot. Vous jouez pour le chèque. La différence était là hier soir.
C'est moche, ça, Charles.
C'est vrai que les gens de l'OM, c'est bénévole.
C'est le club associatif, Charles, chez nous.
C'est pour la beauté. Évidemment. C'est la générosité, c'est gratuit.
On l'a vu hier, parce que des joueurs surpayés comme Mbappé, tout ça, c'est pas normal. Il n'y a rien en face, c'est pas normal. C'est pas normal de voir un spectacle comme ça. Enfin,
Sébastien,
moi, je suis content, hein.
Charles a la mine un peu déconfite.
Non, mais attendons le retour avant de tirer les grandes conclusions. Mardi prochain, rendez-vous, Sébastien, on vivra ça sur RMC, puis on va attendre de voir l'OM briller ce soir, Sébastien.
Et oui, tout est à vivre sur RMC.
Pour toi, Charles, le PSG reste favori de la compétition, t'inquiète pas.
Eric Dimeco, merci à vous, Eric, depuis Marseille. Jean-Louis Tour, on vous retrouve ce soir pour une soirée spéciale sur RMC dès 21h avec le match en direct du Vélodrome, l'after ensuite, et puis la libre antenne, ce sera jusqu'à 1h du matin, il est 7h50 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et dans un instant, expliquez-nous, Nicolas Poincaré.
Et je vous explique à quoi ressemblerait une deuxième présidence Trump aux États-Unis. L'ancien président dévoile tout son programme dans une longue interview.
A tout de suite.
Apolline Matin.
Le bonus RMC.
Le bonus RMC, le bonus de Charles. Charles Soprano se lance au cinéma. Un peu plus près.
Oui, on reste à Marseille, décidément, avec Soprano, qui est sur tous les fronts en ce moment. Hein. Son nouvel album arrive en juin. La semaine prochaine, il portera aussi la flamme olympique. Il allumera la vasque au stade Vélodrome et il donnera aussi un immense concert à l'occasion de l'arrivée de la flamme. Et comme si ça ne suffisait pas, Soprano vient donc d'entamer une nouvelle carrière, une carrière d'acteur. Il tiendra le rôle principal d'une comédie d'aventure familiale. Le tournage vient de débuter. Ça s'appelle Marius et les gardiens de la cité phocéenne. Soprano y incarne le rôle d'un guide touristique qui s'est autoproclamé roi de Marseille et qui, je cite, trimballe ses clients dans son bus panoramique. Un jour, il tombe en panne, rencontre trois gamins qui prétendent être sur la piste d'un trésor. Il faudra attendre 2025 pour découvrir ses aventures de Soprano sur grand écran. Mais dès la semaine prochaine, on le verra donc enflammer la cité phocéenne avec son compère Alonso pour l'arrivée de la flamme olympique.
Clairement, ce soir, je suis en feu, je suis en feu.
C'est Apolline Matin.
Il est 7h53 et c'est l'heure de Nicolas Poincaré.
Expliquez-nous,
Nicolas Poincaré, que serait une deuxième présidence Trump aux États-Unis? L'ancien président détaille son programme dans une longue interview à Time Magazine.
Oui, et le titre de Time Magazine cette semaine, c'est « If he wins », s'il gagne. Que fera Donald Trump lors de son second mandat s'il gagne? Et la première réponse est la suivante. S'il gagne, il ne refera pas l'erreur cruciale faite lors de son premier mandat, à savoir être trop gentil. Comprenez que Trump réélu saura être méchant. Cette interview fleuve, recueillie en deux fois et retranscrite intégralement par Time Magazine, ça représente 1h30 de lecture et c'est passionnant. Le journal résume ainsi ce que Trump annonce. Son deuxième mandat serait impérial, c'est-à-dire placé sous le signe de l'autorité, voire de l'autoritarisme.
Trump, président, s'occuperait en priorité de l'immigration.
Oui, s'il est élu, il prendra une série de mesures agressives sur l'immigration dès le 20 janvier 2025, c'est-à-dire le jour de son entrée à la Maison-Blanche. Il annonce la plus grande opération d'expulsion de l'histoire américaine, parce que nous n'avons pas le choix, dit-il, il y a 15 à 20 millions de sans-papiers, dont beaucoup viennent des prisons et des établissements psychiatriques. Et Donald Trump annonce donc l'expulsion d'environ 11 millions d'émigrés clandestins avec l'aide de la garde nationale et de l'armée. En réalité, la garde nationale aux États-Unis ne peut être utilisée que sur ordre des gouverneurs des États, pas sur ordre du président, mais peu importe. Et en réalité, la loi américaine interdit le déploiement de l'armée contre des civils, mais peu importe encore, Donald Trump estime que les immigrés clandestins ne sont pas des civils, ce sont des envahisseurs. Donald Trump n'exclut pas d'avoir recours à des camps pour rassembler ces immigrés, mais il estime que ce ne sera pas nécessaire puisqu'ils seront surtout expulsés.
Donald Trump tient aussi des propos chocs sur l'avortement.
Il explique d'abord que la fameuse loi Roe versus Wade qui autorisait l'avortement et qui a été abolie était unanimement considérée comme une très mauvaise loi. Alors qu'en fait, elle était certes discutée aux États-Unis, mais certainement pas condamnée unanimement. En tout cas, sur l'avortement, il veut laisser les États et les gouverneurs décider ce qu'ils veulent, y compris pourquoi pas de surveiller les femmes enceintes pour s'assurer qu'elles n'avortent pas si ce n'est pas autorisé. Et cela ne lui poserait aucun problème que les femmes soient poursuivies lorsqu'elles avortent après les délais. Je suis à l'aise avec cette idée, précise-t-il, mais de toute façon, ce sont les gouverneurs qui décideront.
Donald Trump annonce aussi de possibles poursuites contre Joe Biden.
Oui, c'est une sorte de chantage. Il se bat actuellement pour faire valoir son immunité présidentielle et pour être protégé de toutes les poursuites. Et il explique que par conséquent, si on ne lui accorde pas à lui cette immunité, eh bien, Joe Biden ne sera pas protégé non plus et il sera donc poursuivi. Il évoque la nomination d'un procureur spécial anti-Biden. En ce qui concerne ceux qui ont donné l'assaut du Capitole, Donald Trump envisage de tous les gracier s'il est élu. Ça représente environ 800 personnes qui sont poursuivies. Enfin, il annonce que s'il est élu, il remplacera un très grand nombre de fonctionnaires à tous les postes importants, ce qui est classique aux États-Unis. Mais il précise qu'il ne pourra nommer que des gens qui considère comme lui que Joe Biden n'a pas gagné les élections en 2020. Il ne s'entourera donc que de ceux qui pensent qu'on lui a volé sa victoire. À la fin de l'entretien, le journaliste demande à Donald Trump si tout cela n'évoque pas un peu une dictature. Et Trump répond « Beaucoup de gens aiment ça, la dictature ». Enfin, il a tout de même un mot rassurant. Il admet que s'il est élu, il a bien noté qu'il ne pourra pas se présenter pour un troisième mandat en 2028, puisque la Constitution américaine interdit formellement à un président d'être élu plus de deux fois.
Et ça, pour le coup, il ne dit pas « peu importe ».
Non, là, il dit qu'il tiendra compte de ça. Alors, il serait vieux, de toute façon, en 2028.
Les explications de Nicolas Poincaré. Il est 7h57, on se retrouve dans un instant pour la météo et le journal.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.